chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est toujours pour moi le même bonheur de vous retrouver pour notre émission La Carte Postale, toujours en compagnie de Didier. Didier, bonjour.
Bonjour Joyce.
Où nous emmènes-tu aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, c'est la carte postale de Hannah Arendt.
Hannah Arendt,
et
oui.
Et qui est cette Hannah Arendt?
Et oui, grande, grande philosophe et pourtant peu connue. Hans Jonas, un philosophe ami d'Hannah Arendt, rappela lors des funérailles de celle-ci qu'elle avait, je le cite, « le génie de l'amitié ». Elle se disait elle-même « mue par l'éros de l'amitié ». Ses amis étaient le centre de sa vie. Mais qui est-elle? Celle qui refusait l'autobiographie. Hannah Arendt, Anna Johanna Arendt, naît le 14 octobre 1906 d'une mère Martha et d'un père Paul, tous deux juifs, financièrement aisés et cultivés. Sa mère Martha, qui avait fait des études de musique et de langue en France, se passionnait pour les nouvelles thèses sur l'éducation qui préconisaient de respecter l'individualité des enfants au lieu d'écraser leur personnalité par l'obéissance. Paul et Martha vivent dans la ferveur des nourritures intellectuelles. Anna dira jusqu'à la fin de sa vie sa dette envers son père qui lui permit de toucher les livres de sa bibliothèque. Enfant douée et précoce, elle doit supporter l'isolement provoqué par la maladie de son père, maladie honteuse à l'époque puisqu'il avait la syphilis. En 1913, elle n'a pas encore 7 ans lorsque meurent successivement son grand-père puis son père. Anna est si peu triste que sa mère s'en inquiète. Anna lui répondra ainsi, je cite, « Il faut penser aussi peu que possible à de tristes choses, puisque cela n'a aucun sens de devenir triste. » Fin de citation. Elle a 7 ans quand elle dit ça. Anna fait semblant de ne pas être triste en réalité pour protéger sa mère. Évoquant sa 7e année, elle écrira dans son journal de pensée, je cite, « J'ai effectivement souhaité ne plus devoir vivre, mais sans jamais poser la question du sens de la vie. » Fin de citation. Où était parti son père? Y a-t-il une vie après la mort? Dieu existe-t-il? La mort du père fut pour Anna une révélation autant qu'une révolution. Elle commence à penser à Dieu. Plus tard, c'est en se livrant à la philosophie que Anna calmera ses souffrances existentielles futures et son désir de les apaiser, je la cite. « Depuis ma 7e année, si j'ai, à vrai dire, toujours pensé à Dieu, je n'ai jamais, en revanche, médité sur Dieu. » Fin de citation. Le rapport de Anna à la judéité va constituer le fil rouge de sa vie tant personnelle qu'intellectuelle. Juive, elle l'est dans le regard des autres. Juive, elle l'assumera dès son enfance, sans pathos. Anna était précoce en tout, en études comme en amour. En lisant les témoignages de ses amis un peu plus âgés qu'elle, on est frappé par sa précocité intellectuelle et sa détermination, ainsi que sa faculté à mémoriser les textes. Elle semble avoir tout lu. Goethe pour la poésie, en philosophie Hegel, Kierkegaard, mais aussi des ouvrages des romantiques allemands ou français, ainsi que des romans modernes comme ceux de Thomas Mann ou de Kafka. Elle rencontre une bande d'amis constituée de jeunes gens intellectuellement doués, ouverts au monde, enthousiastes et généreux, suit les cours de Martin Heidegger. Parmi ces jeunes intellectuels, Walter Benjamin, en Jonas, Benjamin est déjà ouvert à la mystique et n'est attiré que par un poète, un seul, Oderlin. Anna et son amoureux de l'époque lisent Platon, Martin Buber, et elle étudie la philosophie mais aussi la théologie chrétienne de Romano Guardini, l'un des chefs de file de l'existentialisme chrétien. Elle dira bien plus tard, je la cite, « La philosophie s'imposait, depuis l'âge de 14 ans, j'avais déjà lu Kant ». Comprendre l'horreur de la guerre, l'échec de la révolution, l'absence de valeurs communes, les frontières entre le bien et le mal, tel était le projet de Hannah Arendt. Savoir si, comme le dit Rilke, les hommes sont comme les anges. Elle s'interroge, comment percer l'intrigue religieuse à partir d'une réflexion rigoureuse sur la crise de l'intelligibilité du monde ? Comment comprendre le judaïsme et le christianisme dans leur approche de la vérité ? Comment faire face à l'angoisse de la mort ? L'angoisse de la mort, on le sait, elle a lu Kierkegaard qui affirme que la foi ne peut être tenue pour un savoir, mais résulte d'un engagement. Pour Kierkegaard, la foi n'est pas une expérience tranquille liée à l'angoisse de la liberté et de la faute. Elle doit se confronter au doute pour être authentique en assumant sa propre absurdité.
Quelles sont les influences philosophiques ou autres qui ont jalonné le parcours d'Hannah Arendt ?
Il y en a beaucoup, 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 Didier, mais nous en retiendrons quelques-unes. Hannah a 18 ans en 1920. Elle suit les cours de Nartop sur la critique de la faculté de juger de Kant, la troisième critique, on le sait, écrite donc par Kant. Elle est jeune, mais déjà apte à suivre ses cours. Elle s'est déjà initiée à la philosophie classique, notamment a lu, on l'a déjà dit, Kierkegaard, et à 16 ans, elle a aussi lu la critique de la raison pure de Kant. Elle suit avec passion le séminaire de Rudolf Bultmann sur le Nouveau Testament. Ce théologien avait mis en évidence les strates d'écriture hétérogène du Nouveau Testament depuis le récit de la prédication de Jésus jusqu'à l'Église du IIe siècle en passant par le christianisme juif, le christianisme hellénistique ou encore la doctrine de Paul et celle de Jean et des autres évangélistes. Que s'est-il passé à l'automne 1924 ? Seul Martin Heidegger et Hannah Arendt le savent. Hannah suit les cours d'Edmond Husserl et s'inscrit dans la fratrie fermée d'étudiants qui idolâtrent Martin Heidegger, qui se proclame lui-même élève d'Edmond Husserl, mais aussi de Karl Jaspers. Hannah comprend, à leur contact, que la véritable interrogation philosophique s'assigne pour unique tâche de poser les problèmes de l'existence. Heidegger connaît aussi bien le grec que l'allemand et est le bâtisseur d'une nouvelle philosophie. Il dédie à Husserl son premier livre « Être étant » publié en 1927. L'homme, Heidegger, intrigue, séduit, fascine Hannah Arendt qui tombe éperdument amoureuse de lui. Elle suit son séminaire sur Platon. Dès les premiers cours, il insiste sur les liens entre philosophie et politique. Leur relation amoureuse reste secrète puisque Martin Heidegger est marié. C'est que Martin Heidegger met en scène, pourrait-on dire, la philosophie avec beaucoup de grâce, beaucoup de poésie, beaucoup d'humour, et comme je l'ai dit précédemment, ses étudiants sont fascinés par lui. Dévoiler la vérité des choses, récuser les bavardages, tel est son credo. Il détruit les certitudes comme on arrache les mauvaises herbes. Reprenant une image utilisée par Platon dans le Théétète, il parle de l'âme comme d'un pigeonnier des pensées, comme des colombes prêtes à se laisser capturer et à s'envoler par bandes ou solitaires. Lorsque leur liaison débute, Heidegger a 39 ans et Hannah en a 19. Hannah n'est ni la première ni la dernière étudiante qu'il séduit. Hannah se loge dans les interstices vacants de son emploi du temps, fort surchargé, de l'emploi du temps de Heidegger. Hannah décide de rompre. Elle fait partie d'une bande de jeunes étudiants avec Hans Jonas, Karl Lowitz, Günther Stern, qui deviendra d'ailleurs son premier mari. Elle suit les cours d'Edmond Husserl. Il force ses étudiants à éviter les grands mots et à confronter tout terme à l'intuition des phénomènes. Elle conservera dans toute son œuvre le sens de la critique husserlienne qui veut que penser, c'est avant tout exister comme sujet responsable. Elle acquérera auprès de lui discipline et certitude, deux notions que la philosophie met en avant pour montrer que c'est une véritable vision du monde. Penser, c'est être responsable. Husserl réaffirme avec foi la valeur de la raison et son lien essentiel avec l'humanité elle-même. Il faut rappeler aussi, j'ai oublié de dire, qu'Husserl était lui aussi juif comme Hannah Arendt. Karl Jaspers avait comme Hannah lu et découvert Kant à 14 ans. Il avait été aussi élève de Husserl, avait suivi le séminaire de Heidegger sur Aristote, partageait avec Anna un goût très vif pour la théologie et avait suivi, comme elle, les cours de Rudolf Bultmann. On sait que l'ouverture intellectuelle que permettra Bultmann sur l'approfondissement du Nouveau Testament fut décisive pour sa philosophie. Bultmann donnera aussi à Anna le goût de comprendre le christianisme primitif, la nature de la pensée mythologique et lui fera découvrir saint Augustin. Quand Anna rencontre Jaspers en 1925, elle a 20 ans et lui 43 ans. Il est l'auteur de « La psychologie des conceptions du monde », ouvrage que Anna a lu dès 1921 comme premier témoignage de ce qu'on appellera plus tard la philosophie moderne de l'existence. Comment l'homme se situe-t-il dans le monde? Comment réagissons-nous aux situations limites comme la souffrance, la lutte, le hasard, la faute, la mort? Comment l'amour, le vrai, le réel, peuvent-ils nous protéger? Jaspers est à la fois psychiatre et philosophe. Après avoir subi l'influence, le magnétisme de la pensée brûlante de Heidegger, les cours de Jaspers apparaissent à Anna comme un havre de paix. À une moindre échelle, Anna lit aussi Kafka, qui demeurera pour elle le seul modèle de réflexion intellectuelle sur la signification de l'origine. Les romans de Kafka nourriront toute sa vie et sa réflexion. Elle est également très impressionnée par un article d'Emmanuel Lévinas en 1934 qui explique ce qu'est par essence le nazisme dans sa volonté radicale d'attenter à la dignité humaine. Grâce à Lévinas, Anna comprend que la doctrine de Hitler relève d'une idéologie meurtrière, mais nous verrons pour autant qu'elle ne prend pas ses distances avec Heidegger, qui a, lui, adhéré aux thèses nazies.
Elle articule sa thèse de doctorat autour du concept d'amour chez saint Augustin. Que dit-elle exactement ?
Oui, alors, on a vu, c'est son professeur qui lui a fait connaître saint Augustin, et sa thèse s'articule autour de trois points. L'amour comme désir, appetitus. L'amour comme relation entre l'homme et Dieu et l'amour du prochain. La question de l'amour du prochain est présentée comme la plus fondamentale, celle vers laquelle les deux premières, c'est-à-dire l'amour désir appetitus ou l'amour comme relation entre l'homme et Dieu, ces deux premières sont orientées autour de la question de l'amour du prochain. L'exposé est dialectique. Je cite: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous connaissons tous ce commandement qui à la fois unifie et transcende les deux autres concepts d'amour. Néanmoins, Hannah Arendt ne cherche pas à enfermer saint Augustin dans le carcan d'une cohérence étrangère à ses intentions ou à réconcilier des propositions en apparence hétérogènes, voire contradictoires. Sa démarche semble refléter une distinction que faisait Jaspers entre le système et la systématicité. On peut y découvrir un ordre sans prétendre envers et contre tout qu'il existe un ordre définitif et total. Jaspers écrivait, je le cite, il n'y a rien de plus facile que de trouver des contradictions chez saint Augustin. Nous les lisons comme des traits de sa grandeur. Aucune philosophie n'est vierge de contradictions, mais aucun penseur ne peut se donner pour but la contradiction, fin de citation. Pour lui, les formules contradictoires de saint Augustin sont nécessaires à sa fécondité. Jaspers et Arendt rencontrent beaucoup d'hostilité de la part des critiques qui avaient décelé chez saint Augustin, ou plutôt délaissé l'évêque pour le penseur, donc ces penseurs critiquent Hannah Arendt et Jaspers parce qu'ils ont ils ont vu en saint Augustin un philosophe et non pas un théologien. Arendt, elle, insista sur le fait que saint Augustin n'était pas seulement théologien, qu'il était aussi penseur. Or, selon les critiques, elle s'était trompée deux fois. Pourquoi ? Premièrement, elle avait ignoré le théologien saint Augustin, c'est ce qu'ils disent les critiques, à tort. Deuxièmement, elle avait ignoré les théologiens contemporains qui revendiquaient l'héritage augustinien. Ce travail d'une jeune fille juive, à l'époque de 33 ans, consacré à l'une des plus grandes figures du christianisme, relevait de la philosophie existentielle et non de la théologie, et c'est ce que ceux qui ont contesté son travail n'ont pas compris. Dans sa thèse, elle faisait œuvre de philosophe et non pas œuvre de théologienne. En réalité, ce qu'Arendt a voulu montrer dans sa thèse, c'est que l'amour est un phénomène lié à l'existence temporelle. L'amour comme appetitus, c'est-à-dire comme désir, anticipe, il est orienté vers le futur. L'amour comme relation au Dieu créateur est dirigé vers le passé, le plus reculé, c'est-à-dire la création, la Genèse. L'amour du prochain, amour conjugué au présent, enveloppe à la fois les deux modes d'existence temporelle et les deux facultés qu'il présuppose en l'homme, l'espérance et la mémoire. Et ces modes de temporalité, le futur comme pas encore, le passé comme déjà plus et le présent comme en un sens pas du tout, était constitutif de la thèse d'Anna Arendt qui a été si mal comprise.
Elle a développé une intense activité politique. Quelles sont les formes de son action ?
Intense activité politique dès son plus jeune âge. La guerre est déclarée, en situation d'exilé, puisqu'Anna Arendt a fui au Portugal, puis en Amérique, etc. Elle lit et relit la méditation de Walter Benjamin. Elle confie ses angoisses à son ami Salomon Adler. Je cite, « Vous existez encore ? Comment penser le désastre ? Comment continuer à lutter ?» Fin de citation. Elle écrit sur le concept d'histoire au moment où l'Europe vomit le contenu de son estomac empoisonné. Le 2 mai 1941, Salomon Adler écrit à Anna, je cite, « Si la guerre dure longtemps, une bonne partie du problème juif se résoudra tout seul par la mort. » Fin de citation. Elle ne reçoit pas la missive, elle vient d'embarquer pour l'Amérique, nouvelle terre promise. Elle craint cependant le gigantisme, la puissance, le goût de l'argent des Américains. Elle connaît par cœur les temps modernes de Charlie Chaplin, Métropolis de Fritz Lang, America de Kafka. En cette fin 1941, elle se méfie de l'Amérique. Avec le nazisme, l'exil est devenu collectif. Comment préserver son propre nom, sa propre individualité, sa capacité de dire « je » ? Comment lutter contre ce malheur universel du nazisme ? Comment éviter l'esthétique du déracinement ? Anna Arendt a emporté avec elle les manuscrits du regretté Walter Benjamin qu'elle envoie à Théodore Adorno. La mort de son ami lui impose le devoir de faire publier ces manuscrits de Walter Benjamin. Mais Adorno, qui a été l'ami de Benjamin, censeurs s'érigent en censeurs idéologiques et refusent de les publier. Mais Gershom Scholem les donne à Bertolt Brecht et ils seront enfin publiés sous le titre, je cite, « En mémoire de Walter Benjamin » et en 1947 dans « Les temps modernes » pour la traduction française. Dans le même temps, Anna milite pour la création d'une brigade juive à l'intérieur des forces anti-nazis. Comme Hans Jonas, elle pense que des unités juives sont nécessaires pour rassembler les juifs de tous les pays contre Hitler et contre sa guerre antisémite. Dès 1941, Anna écrit que Hitler mène une guerre avant tout contre un peuple, le peuple juif. C'est une idée qu'elle reprendra lors du procès Eichmann. Être juif, c'est être libre. Et être libre, c'est mourir les armes à la main. Être juif, c'est ne pas accepter la moindre compromission, ni avec les autorités nazies, encore moins avec soi-même, en effaçant sa propre identité par l'assimilation. Telle est sa pensée. Elle devient une Européenne convaincue et croit au sursaut, à la victoire, à la force de la dignité humaine. Elle n'est pas seule et Thomas Mann la rejoint, par exemple. Pour elle, l'urgence est de trouver une réponse politique à l'antisémitisme. En 1942, dans un article intitulé « Papier et réalité », elle interpelle l'opinion publique sur le silence qui recouvre le sort réservé aux Juifs d'Europe envoyés à la mort, aux Juifs emprisonnés derrière les barbelés des camps de concentration. Le 8 mai 1942, sous le titre « L'éloquence du diable », elle s'inquiète de nouveau de la conspiration du silence concernant les Juifs. Le 22 mai 1942, sous le titre « La prétendue armée juive », elle supplie l'opinion publique d'ouvrir les yeux et de cesser de s'abriter derrière les mensonges. Elle est la première à prendre au sérieux et à la lettre ce que dit Goebbels, le propagandiste du Reich. Je cite Goebbels, l'extermination des Juifs d'Europe et peut-être de ceux qui sont hors d'Europe a commencé. Fin de citation. Toute la conscience douloureuse d'Anna Arendt se nourrit cependant d'un espoir actif pour une humanité plus humaine et je la cite. Nous ne pouvons pas leur rendre les derniers honneurs. Nous ne pouvons pas consoler leurs veuves ou leurs orphelins. Ils sont les victimes d'un sacrifice tel qui n'en a plus existé depuis l'époque de Carthage et la destruction du Moloch. Nous pouvons plus que rêver leurs rêves jusqu'au bout. Fin de citation. Elle lance là des axes de réflexion qu'on retrouvera dans les origines du totalitarisme, et conditions de l'homme moderne.
Justement, nous ne pouvons pas tout voir, mais parle-moi justement de cet ouvrage intitulé « Les origines du totalitarisme ».
Et oui, nous ne pouvons pas tout voir, malheureusement, comme tu l'as dit. Et oui, ce n'est pas un hasard si Jean-Luc Godard lit des extraits des origines du totalitarisme dans le film qu'Anne-Marie Méville réalise en 1997, film intitulé « Nous sommes tous encore ici », titre même qui sonne comme un hommage à l'idée principale de Hannah Arendt de cette communauté du monde, celle des vivants. C'est en effet un texte de survie, un texte brûlant, un texte matriciel, un livre considérable qui permet de prendre la mesure de la puissance intellectuelle de son auteur. Chirurgienne du désert de l'après-guerre, elle dissèque les éléments du totalitarisme, mélangeant les cartes de monde gangrenées par l'appât du gain, par l'exaltation de la nation au détriment de la souveraineté de l'État. Elle met à jour les grands mouvements mortifères qui morcellent inexorablement le corps des nations qui constituent l'Europe. Mais ce livre, « Les origines du totalitarisme », est aussi la profession de foi d'une femme meurtrie dans sa chair. Elle s'attaque aux problématiques de la déchirure intérieure et tente de comprendre ce que signifie être encore vivant après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pas d'incantation cependant, elle nous enseigne l'idéologie comme croyance, l'idée du progrès même définitivement ruiné. Elle se hisse au niveau des penseurs comme Léo Strauss, Raymond Aron, Michel Foucault. Elle est la seule femme du XXe siècle à avoir tenté de prendre à bras-le-corps les tourments du siècle et à avoir su décrire comment ces déchirures d'humanité avaient ruiné la croyance en une raison capable d'expliquer ce qui s'était passé tout en portant atteinte à l'intérieur de chacun de nous, à l'idée même de l'universel. Simone Veil, comme elle, a tenté de penser la destruction du politique comme une éradication de la possibilité même du futur. Surdame, Arendt et Veil ont eu le courage d'aborder les systèmes les plus obscurs de notre acharnement à mettre en faillite les droits de l'homme et notre entêtement à accepter la servitude volontaire. Quand je parle de Veil, c'est la philosophe. Les origines du totalitarisme constituent une œuvre maîtresse pour comprendre comment les peuples ont pu adhérer à l'idée de génocide. Comment notre pacte social a été définitivement brisé, comment on a accepté l'inacceptable. Elle nous rappelle, Hannah Arendt, elle nous rappelle après Aristote, après Hobbes, que l'homme est un animal politique et Hobbes nous l'avait dit, l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui par définition, comme animal politique, vit en communauté, mais que l'homme est aussi un être qui désire le pouvoir, un être dénué de raison, sans libre arbitre, régi par la peur, incapable de vérité et de responsabilité parfois. Hannah Arendt s'y révèle comme rétive à tout système de croyances religieuses, idéologiques ou politiques. Elle développe dans ce livre les origines du totalitarisme. Elle développe une théorie des sans-droits, ce qu'elle appelle, je cite, « la lie de la terre » et qu'elle place au centre de sa réflexion politique. On ne peut qu'être bouleversé et admiratif devant cette force de pensée qui éclaire dans la pensée politique un thème devenu central, la place de ceux qui sont les oubliés de l'histoire, ceux qui ne sont plus rien ni personne, ceux à qui les guerres ont tout enlevé, patrie, nation, identité. Elle met en relief ce jeu pervers de trafic géographique et humain où l'effacement de l'identité devient la carte maîtresse du politique. Ces réfugiés sont des hommes, nous dit-elle, des hommes qu'on ne traite pas comme tels. En enlevant à certains, apatrides, minorités, leurs droits, qui par définition sont inviolables et universels, les États-nations commencent par ne plus être des États de droit et les droits de l'homme relèvent d'une vaste hypocrisie hasardeuse. Hannah Arendt met au centre du débat l'apatricide qui représente le phénomène le plus nouveau de l'histoire contemporaine. Elle pointe le cynisme des politiques. Elle engage la réflexion sur la signification de cette tribu de femmes et d'hommes de trop vivant comme en contrebande, dont on tolère à peine l'existence aux marges de l'Europe. C'est ainsi que s'achève notre émission sur la très très grande Hannah Arendt, notre carte postale. Merci Didier pour tes questions.
Merci Joyce.
Et merci à vous, chers amis auditeurs, encore une fois, d'avoir fait le choix de Radio Arc-en-Ciel.